Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Micro-Rebelle Hebdo. Chaque semaine, nous allons à la rencontre de nouveaux artistes, de nouvelles musiques. Comme toujours à Micro-Rebelle, nous ne diffusons que de la musique libre. L'artiste que Michel nous fait découvrir aujourd'hui s'appelle Zwieback. Depuis 10 ans, Zwieback publie ses œuvres sous licence Creative Commons. Son 4e album, Good Luck Potato, est disponible depuis plusieurs mois maintenant. Fait étonnant, les 8 titres instrumentaux n'ont quasiment pas de percussion. Cette pureté musicale permet de mettre en lumière les arrangements des guitares en donnant beaucoup d'intensité et de profondeur aux différents arpèges. Avec un enregistrement irréprochable et des compositions originales, Zwieback nous offre un beau cadeau. C'est de la pop, folk, acoustique, instrumentale. Le morceau que nous avons écouté en introduction s'appelle « There You Are ». Je vous retrouve tout à l'heure et sans attendre, je laisse Jonathan vous présenter l'agenda.
Bonjour, ici Jonathan de Micro-Rebelle. Je suis là pour vous présenter l'agenda accompagné de Lucien et de Michel. La musique que vous allez entendre le long de cet agenda s'intitule « Bud the One » par Elaku.
Du 5 octobre au 16 novembre se déroule le festival Tchotloupiote. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un festival d'éveil culturel et artistique pour les enfants de 0 à 6 ans et bien évidemment leur famille. Alors ça se déroule sur l'ensemble du territoire. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site Droit de Cité pour trouver les communes qui participent à l'événement. Et n'hésitez pas bien sûr à aller faire un tour sur les animations, les spectacles, les... ateliers d'éveil artistique pour vos enfants. Cela pourrait peut-être créer des vocations dans le domaine des arts du spectacle. Alors on continue avec le domaine artistique, avec cette fois-ci un événement artistique qui se déroule du 7 au 9 octobre et qui s'appelle les portes ouvertes des ateliers d'artistes. Alors, c'est une initiative qui se déroule sur le Pas-de-Calais, donc entre le 7 et le 9 octobre, où 270 artistes du département ouvrent leurs portes d'atelier au public. Donc, rendez-vous sur le site poaa62.fr et vous allez en fait pouvoir choisir le domaine artistique qui vous intéresse, cocher la case, lancer la recherche et vous allez pouvoir trouver les artistes qui sont autour de chez vous. Dans le domaine que vous avez choisi, par exemple la sculpture, la peinture, la vidéo, le multimédia, et vous allez pouvoir comme ça prendre contact avec eux et aller les rencontrer dans leur atelier, discuter avec eux et voir comment ils travaillent. Donc c'est pendant 3 jours, du 7 au 9 octobre. Donc le site internet c'est poaa62.fr. N'hésitez pas, pour les amoureux des artistes, pour discuter avec eux et permettre comme ça une meilleure communication entre l'artiste et son public. Alors on continue dans les festivals avec cette fois-ci la Fête de la Science qui se déroule du 8 au 16 octobre. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une initiative nationale du ministère de l'Éducation pour éveiller les enfants, les lycéens, les collégiens à la science et bien sûr aussi pour les plus vieux. Alors sur le territoire du Pas-de-Calais, il y a énormément d'animations. Alors n'hésitez pas, il faut aller faire un tour sur le site fetedelascience.com pour trouver les communes dans votre coin qui participent à cet événement national. Alors, il y aura des ateliers, bien sûr, il y aura des concerts autour de la science. Donc, c'est plusieurs en fait, animations, plusieurs spectacles qui ont pour thème la science, l'éveil de la science et donner envie aux jeunes de s'intéresser au monde scientifique par le biais du jeu, par le biais des spectacles, par le biais de l'amusement. Voilà, donc c'est la Fête de la Science du 8 au 16 octobre. N'hésitez pas donc à aller faire un tour sur le site internet fetedelascience.com pour trouver les animations autour de chez vous. Alors, le samedi 8 octobre, il y a une mobilisation contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, dans la ZAD. Alors un convoi est prévu depuis Lille, départ 10h, c'est un covoiturage. Alors pour les informations, vous pouvez aller sur le site internet acipa-ndl.fr ou zad.nadir.org. Vous trouverez, je pense, toutes les informations concernant cette journée de mobilisation et sûrement les informations liées au covoiturage organisé depuis Lille. Voilà, bonne mobilisation.
Bien, notre prochaine date, c'est donc le vendredi 14 octobre à 19h à Lens. Le lieu n'est pas encore connu, hein, il sera très prochainement diffusé. Donc c'est une soirée à l'initiative de l'association Au Secours 62. Alors de quoi s'agit-il ? Vous savez que cet été, le Parlement français, l'Assemblée nationale notamment, a adopté une loi sur le droit humain à l'eau. Hein, très, très rapidement, il s'agit de faire en sorte que chaque être humain, où qu'il soit, hein, en ville ou dans les coins les plus reculés de la campagne, puisse bénéficier du minimum vital pour se laver, pour boire, pour bénéficier du minimum indispensable concernant l'eau. Donc c'est une loi qui semble très intéressante, hein. Et l'association Au Secours 62 a décidé de présenter un petit peu cette loi à l'ensemble des personnes du bassin minier qui manifestent de l'intérêt. Alors, cette loi, elle a été adoptée et présentée par un groupe de députés. Et parmi ces députés, il y a le député de Béthune, Stéphane Saint-André. Et ce soir-là, ce vendredi 14 octobre, Stéphane Saint-André sera donc présent aux côtés de l'association Au Secours 62 pour présenter cette loi concernant le droit humain à l'eau. Une soirée qui promet d'être tout à fait intéressante.
Alors le 15 octobre au LAG, il y aura un ciné-débat en présence de la réalisatrice Françoise Davis qui a réalisé le film Comme des lions qui revient sur les 2 ans de lutte des ouvriers et salariés de l'usine Peugeot PSA, donc entre 2011 et 2013. Un débat sera organisé bien sûr avec la réalisatrice, mais ça s'inscrit dans une petite tournée qui a été organisée pour Françoise Davis et son film Comme des lions. Vous pouvez la retrouver, elle et son film, le 13 octobre à Boulogne au cinéma Les Stars et le 14 octobre à Calais à l'Alhambra. Alors on continue sur le cinéma, puisque le 17 octobre, au Cinémovida d'Arras, dans le cadre des Journées de l'eau 2016, un ciné-débat est organisé par Au Secours 62 autour du documentaire Fleurs du futur de Bravoda, réalisé par Valérie Valette. Alors c'est un film qui s'intéresse à l'importance des petits cycles de l'eau et qui pose la question du rétablissement hydrique et thermique sur les continents. Donc c'est un documentaire qui a l'air vraiment très intéressant, tourné vers des questions qui nous touchent toutes et tous. Voilà, donc c'est le 17 octobre à 20h au Cinéma Vida.
Le samedi 22 octobre aura lieu une formation de Haut Secours 62 au centre de Max Paul Fouché à Méricourt. Cette formation débute à 10h et se termine à 12h30. Ce mini-stage nous aidera à comprendre les rapports qui concernent l'eau. Il en existe deux types. Le premier consiste à savoir la qualité du service de l'eau et le second est de comprendre le rapport financier de Veolia. En nous expliquant où vont notre argent pour les factures d'eau, le principal objectif de cette formation est de savoir comprendre et lire ces rapports et d'identifier les éléments importants.
Bien, maintenant nous passons au samedi 5 novembre. C'est une initiative organisée par la coopérative CLIS 21. Donc ça se passe au LAG, le lieu autogéré du Pas-de-Calais, 23 avenue Jean Jaurès, à Liévin. Et c'est une journée en deux temps. Le matin, entre 10h et midi et demi, nous aurons droit à un débat pensé ensemble avec comme intervenant Jean-Louis Laville. Jean-Louis Laville est professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers à Paris, le CNAM, où il est titulaire de la chaire Économie solidaire. Il est également chercheur au LISE, le laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique, et également à l'IFRIS, l'Institut francilien Recherche, Innovation, Société. Donc ce débat va porter notamment sur le dernier ouvrage qu'a écrit Jean-Louis Laville. Ce dernier ouvrage s'intitule tout simplement « L'économie sociale et solidaire ». Alors je vais me permettre de vous en lire la quatrième de couverture, tout au moins un extrait. « L'économie sociale et solidaire est-elle une autre économie ?» Pour répondre à cette question controversée, ce livre propose une réflexion originale sur la démocratie et l'économie. À travers les histoires américaines et européennes de l'associationnisme, l'auteur retrace d'abord la genèse trop oubliée des pratiques contemporaines. Il détaille ensuite les formes de leur regain actuel et il examine les débats théoriques entre les tenants du tiers secteur, de l'économie sociale et de l'économie solidaire. Renouvelant l'approche du sujet par sa perspective internationale, l'ouvrage constitue une référence pour les étudiants, pour les acteurs du monde associatif, coopératif et mutualiste, comme pour toutes les personnes impliquées dans les initiatives citoyennes. Voilà, vous l'avez compris, c'est vraiment un débat qui est ouvert à toutes et à tous, à toutes celles et tous ceux qui sont curieux de ce qu'est cette autre économie, hein, l'économie sociale et solidaire, avec une personne, hein, Jean-Louis Laville, impliqué depuis de très nombreuses années dans le domaine. Alors, notons aussi que, à l'occasion de ce débat pensé ensemble, donc le samedi 5 novembre, Jean-Louis Laville évoquera également son avant-dernier livre, Les gauches du 21e siècle, un dialogue Nord-Sud. Alors, le dialogue Nord-Sud évoqué ici, en particulier à partir d'une coopération étroite avec l'Amérique latine, permet d'identifier des perspectives pour des gauches à venir, au travers de thématiques tout à fait intéressantes, la réinvention de l'État, la redéfinition de la solidarité, la rénovation de la social-démocratie, le socialisme du 21e siècle, le bien-vivre, le pluriversalisme, la décolonialité, l'associationnisme populaire, le post-développement, etc., etc. Voilà, donc je vous rappelle un petit peu ce moment, hein, le 5 novembre, au LAG, à l'initiative de la coopérative CLIS 21. Notons quand même que le mois de novembre est le mois de l'économie sociale et solidaire. Et donc là, on a un bon invité, hein, à l'initiative de CLIS 21, on a un bon invité pour nous ouvrir à l'ensemble de ces questions. Toujours le 5 novembre, et toujours au LAG, hein, CLIS 21 continue l'après-midi une foire aux installs. Alors, une foire aux installs, je pense que maintenant vous commencez à comprendre et à savoir ce que c'est. C'est la possibilité qui vous est offerte de venir installer Linux et des logiciels libres sur votre ordinateur. Donc, vous venez au LAG l'après-midi à partir de 14h et les ingénieurs de CLIS 21 vous aident à installer Linux, vous font profiter de leur expérience en matière de logiciels libres. Donc, tout ça, toute cette journée est parfaitement gratuit. À bientôt! We'll be right back.
Et voilà, cet agenda est terminé. Restez avec nous pour écouter nos reportages. À bientôt et à la semaine prochaine.
Je te remercie, Jonathan. Je vous propose de continuer notre écoute de l'album Good Luck Potato de Zwieback avec une nouvelle composition intitulée Make It Last. C'était Make It Last de Zwieback dans Micro Rebelle Hebdo, diffusé sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. J'en profite pour vous rappeler les plages de diffusion de notre émission, le mardi à 15h, le samedi à 8h et le dimanche soir à minuit. Et c'est donc sur microrebelle.fr et chez nos amis de PFM sur 99.9. Il est maintenant temps de passer à notre reportage. Cette semaine, c'est l'ami Michel qui est allé à la découverte du centre de production et de diffusion en art visuel La Banque à Béthune. La Banque, comme son nom le laisse entendre, a abrité la Banque de France jusqu'en 2006. Ce bâtiment, qui appartient à Artois-Com, la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, a connu un important chantier de mise aux normes et vient de réouvrir ses portes en avril 2016. On est donc aux toutes premières initiatives programmées à la banque. Du 8 octobre 2016 au 26 février 2017, c'est l'exposition « Dépenses » qui est présentée. « Dépenses » est le premier volet d'une trilogie dans lequel 21 artistes vont interroger la notion de dépense selon la pensée de l'écrivain Georges Bataille. En effet, la notion de dépense est un texte introductif à l'essai de Georges Bataille intitulé « La part maudite ». Le vernissage de cette exposition a lieu le jeudi 6 octobre à partir de 18h30. La commissaire de l'exposition, Léa Bismuth, que vous allez entendre dans le reportage qui suit. Petite précision, la banque est située au 44 place Clémenceau à Béthune. Je vous laisse tout de suite avec Michel.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau reportage pour Micro Rebelle. Alors cette semaine, c'est un peu particulier, nous vous proposons un extrait d'un entretien avec la commissaire d'exposition Léa Bismuth qui est venue s'entretenir avec nous de la prochaine exposition du La Banque à Béthune qui s'appelle « Dépenses » autour de l'œuvre de Georges Bataille. Voilà, j'espère que vous allez apprécier cet extrait. Pour écouter la suite, ce sera sur notre site internet microrebelle.fr. Je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine et bonne écoute. Donc bonjour Léa Bismuth, donc on est au La Banque, dans les appartements, il me semble, du directeur à l'époque. Et nous allons discuter autour du projet La Traversée des Inquiétudes, qui est une trilogie d'expositions autour de la pensée de Georges Bataille. Et le 8 octobre débute le premier volet, Dépenses, qui s'inspire librement du livre La part maudite. Mais avant tout, donc vous êtes commissaire d'exposition, et je pense que pour nos auditeurs et auditrices, c'est quelque chose qui reste flou. Donc la première question, c'est est-ce que vous pouvez présenter votre métier ?
Oui, bonjour. Alors en effet, le métier de commissaire d'exposition s'il n'est pas forcément nouveau, en tout cas, il est constamment en train de se redéfinir en ce moment. Il y a, je pense aussi, différents types de commissaires d'exposition. Il se trouve que moi, je viens de la littérature et de la philosophie à l'origine. Puis, je me suis évidemment intéressée à l'histoire de l'art que j'ai étudiée à l'université, puis à l'art contemporain. Et en fait, c'est en devenant critique d'art, c'est-à-dire en étant au contact des artistes de mon temps sur lesquels j'ai écrit, que progressivement, je me suis dit qu'en fait, il fallait aller plus loin dans cette relation-là avec eux et au lieu de simplement écrire sur leur travail, commencer à travailler avec eux dans l'espace, en imaginant ensuite une réflexion qui m'est propre et qui me permet finalement de faire se rencontrer mes deux passions, enfin la littérature et la philosophie d'un côté et l'art contemporain de l'autre, sachant que les artistes de tout temps et aujourd'hui aussi en particulier sont aussi des gens qui évidemment s'intéressent aux sciences, s'intéressent à la philosophie, s'intéressent à l'écologie, s'intéressent à la politique et finalement vont mettre en œuvre une réflexion en l'incarnant dans une œuvre. Donc c'est ça qui m'intéresse en fait. Et donc le commissariat d'exposition, s'il fallait en donner une définition simple, j'aimerais bien dire que c'est une mise en scène à un moment donné d'une problématique où des artistes peuvent se rencontrer dans un espace.
Alors vous évoquez justement ce rapport que vous avez avec l'artiste, que l'artiste avec le lieu, une forme de triangulaire, si on peut dire ça comme ça. Alors justement, je voulais aborder avec vous la question du lieu, puisqu'on est dans la banque, qui est une ancienne succursale de la Banque de France, réaménagée en musée, dédiée à l'art contemporain. Comment en êtes-vous venu à travailler avec le La Banque ?
Alors, en réalité, c'est le fruit d'une rencontre et d'une invitation. J'ai rencontré Philippe Massardier il y a quelques années maintenant, 2 ans, je pense, quand il avait fait le projet Ligne de Front avec les containers dans les villages de la Ligne de Front, justement, qui évoquait la guerre de 14-18. Et on s'est rencontrés à cette occasion-là. Et puis, on a dialogué. Il m'a beaucoup interrogée sur ce que j'imaginais être le commissariat d'exposition. Et je dois dire qu'il m'a semblé assez réfractaire dans un premier temps. Et puis, finalement, on a dialogué autour de l'espace, de la banque, que je suis venue visiter plusieurs fois. Je dois dire que je suis quand même tombée amoureuse de cet endroit, que c'est magnifique, pour plusieurs raisons. Déjà parce que il y a cette âme dans le bâtiment dont je vous parlais. Aussi, il y a toutes ces ambiances différentes, avec ce grand plateau central qui accueille des installations, les sous-sols qui sont un peu bruts et âpres et difficiles à cerner. Ce premier étage dans lequel on se trouve, qui est très bourgeois, avec des parquets, des moulures, des cheminées, des lustres. Un éclairage pas facile d'ailleurs, mais j'ai décidé de m'en contenter aussi parce que c'est ça le lieu. Et le deuxième étage, que là j'ai transformé en un espace beaucoup plus ténébreux, parce que c'est l'espace du rituel dans l'exposition. Donc on a des rideaux, on a des petites pièces, on a tout un parcours un peu labyrinthique que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà comment ça s'est passé. Ensuite, je dois dire que Philippe, au tout départ, donc Philippe Massardier m'avait en fait proposé de réfléchir à la notion de la banque, en fait, de l'argent, de la financiarisation des choses. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lui parler de La Part maudite de Bataille, qui est donc cet ouvrage d'économie politique dans lequel Bataille défend l'idée d'une économie de la perte fondée sur un principe de don. Et de consommation, c'est-à-dire une énergie qui se consumerait comme un feu qui brûle, au lieu d'être dans une logique de consommation ou de thésaurisation, à savoir on met l'argent dans les coffres, on ferme le coffre. Lui, il veut que ça brûle. Et après, il y a plein de choses à prendre en compte pour expliquer le parcours de l'exposition autour de ça. Et puis. Du coup, en discutant avec Philippe de cette question de la dépense, on en est arrivé à s'embarquer dans ce projet de trilogie. Parce que, pour moi, la pensée de Bataille étant extrêmement riche, il devenait essentiel de tenter une expérience sur le long terme. Et ça, c'est Philippe qui me l'a proposé et j'étais extrêmement heureuse, en fait, de répondre à ça. Parce que la pensée de Bataille, je l'étudie maintenant depuis une douzaine d'années. Je l'ai étudiée à l'université en philosophie. Je l'ai beaucoup lue. Elle m'a servi de prisme à travers lequel je pouvais écrire sur l'art contemporain pendant longtemps. Et après, je voulais enfin essayer d'aller encore plus loin dans cette relation que j'avais avec cette pensée-là pour aller au contact des artistes pour créer le projet d'exposition. Et la trilogie, elle est née comme ça, cette volonté d'adapter librement la pensée de Bataille au format de l'exposition, en inventant une forme d'exposition, justement. Cette forme d'exposition, elle est rendue possible parce que la banque est un lieu de production en art contemporain aussi. Donc évidemment, associer des artistes avec moi dans ce cadre est grandement facilité et nous permet d'aller très très loin tous ensemble, en fait. Parce que comme on a des capacités de production, on peut véritablement travailler ensemble à penser l'espace, à penser les pièces, à penser le dialogue, etc.
Alors, vous évoquez justement ce rapport que vous avez avec l'artiste, que l'artiste avec le lieu, une forme de triangulaire, si on peut dire ça comme ça. Alors justement, je voulais aborder avec vous la question du lieu, puisqu'on est dans la banque, qui est une ancienne succursale de la Banque de France, réaménagée en musée, dédiée à l'art contemporain. Comment en êtes-vous venu à travailler avec la banque ?
Alors, en réalité, c'est le fruit d'une rencontre et d'une invitation. J'ai rencontré Philippe Massardier il y a quelques années maintenant, 2 ans, je pense, quand il avait fait le projet Ligne de Front avec les containers dans les villages de la Ligne de Front, justement, qui évoquait la guerre de 14-18. Et on s'est rencontrés à cette occasion-là. Et puis, on a dialogué. Il m'a beaucoup interrogé sur ce que j'imaginais être le commissariat d'exposition. Et je dois dire qu'il m'a semblé assez réfractaire dans un premier temps. Et puis, finalement, on a dialogué autour de l'espace, de la banque, que je suis venue visiter plusieurs fois. Je dois dire que je suis quand même tombée amoureuse de cet endroit, que c'est magnifique, pour plusieurs raisons. Déjà parce que il y a cette âme dans le bâtiment dont je vous parlais. Aussi, il y a toutes ces ambiances différentes, avec ce grand plateau central qui accueille des installations, les sous-sols qui sont un peu bruts et âpres et difficiles à cerner. Ce premier étage dans lequel on se trouve, qui est très bourgeois, avec des parquets, des moulures, des cheminées, des lustres. Un éclairage pas facile d'ailleurs, mais j'ai décidé de m'en contenter aussi parce que c'est ça le lieu. Et le deuxième étage, que là j'ai transformé en un espace beaucoup plus ténébreux, parce que c'est l'espace du rituel dans l'exposition. Donc on a des rideaux, on a des petites pièces, on a tout un parcours un peu labyrinthique que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà comment ça s'est passé. Ensuite, je dois dire que Philippe, au tout départ, donc Philippe Massardier m'avait en fait proposé de réfléchir à la notion de la banque, en fait, de l'argent, de la financiarisation des choses. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lui parler de La Part maudite de Bataille, qui est donc cet ouvrage d'économie politique dans lequel Bataille défend l'idée d'une économie de la perte fondée sur un principe de don. Et de consommation, c'est-à-dire une énergie qui se consumerait comme un feu qui brûle, au lieu d'être dans une logique de consommation ou de thésaurisation, à savoir on met l'argent dans les coffres, on ferme le coffre. Lui, il veut que ça brûle. Et après, il y a plein de choses à prendre en compte pour expliquer le parcours de l'exposition autour de ça. Et puis. Du coup, en discutant avec Philippe de cette question de la dépense, on en est arrivé à s'embarquer dans ce projet de trilogie. Parce que, pour moi, la pensée de Bataille étant extrêmement riche, il devenait essentiel de tenter une expérience sur le long terme. Et ça, c'est Philippe qui me l'a proposé et j'étais extrêmement heureuse, en fait, de répondre à ça. Parce que la pensée de Bataille, je l'étudie maintenant depuis une douzaine d'années. Je l'ai étudiée à l'université en philosophie. Je l'ai beaucoup lue. Elle m'a servi de prisme à travers lequel je pouvais écrire sur l'art contemporain pendant longtemps. Et après, je voulais enfin essayer d'aller encore plus loin dans cette relation que j'avais avec cette pensée-là pour aller au contact des artistes pour créer le projet d'exposition. Et la trilogie, elle est née comme ça, cette volonté d'adapter librement la pensée de Bataille au format de l'exposition, en inventant une forme d'exposition, justement. Cette forme d'exposition, elle est rendue possible parce que la banque est un lieu de production en art contemporain aussi. Donc évidemment, associer des artistes avec moi dans ce cadre est grandement facilité et nous permet d'aller très très loin tous ensemble, en fait. Parce que comme on a des capacités de production, on peut véritablement travailler ensemble à penser l'espace, à penser les pièces, à penser le dialogue, etc.
Thank you.
Donc bonjour Anis Broyer, donc vous êtes artiste sur l'exposition Dépenses. Donc vous êtes en train de faire une œuvre pour l'occasion. Alors première question très simple, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous allez présenter en fait pour cette exposition?
Alors pour cette exposition, je présente une série de photographies noir et blanc et couleur. C'est une sorte de parcours pour que le spectateur fasse l'expérience de ma propre lecture de Georges Bataille. Et donc, d'image en image, il se déplacera de lieu en lieu, qui sont des lieux liés soit à la biographie directe de Bataille, soit à ses écrits, et donc de créer un nouveau récit et une expérience du regard, en fait.
Très bien. Alors, vous, justement, vous abordez la question de l'œuvre de Bataille, puisque ça s'insère dans un cycle d'exposition autour de l'œuvre de l'écrivain. Quelle a été votre approche avec son œuvre?
Alors en fait, Léa Bismuth m'a invité parce que précisément ça fait 4 ans que je travaille sur l'œuvre de Bataille. Donc ce qui était intéressant pour moi, c'est que se poser une... En fait, cette série que je suis en train de construire, qui s'appelle « Journal de l'œil, les globes oculaires », c'est une suite de questions par rapport à l'œuvre de Bataille. Et donc cette notion de dépense par rapport à la part maudite, c'était le moment de l'aborder. Disons que ça a anticipé cette question. Et c'est une question qui est difficile à aborder en photographie, surtout dans la photographie telle que je la pratique, qui est une sorte d'écriture réelle, en fait, où j'aborde la photographie comme la littérature, c'est-à-dire qu'il y a l'association des images, donc le lien entre les images qui crée un récit, crée une scansion, un rythme, donner une couleur d'un texte, la couleur de l'écriture de Bataille, retrouver sa consistance en fait à travers les images. Et donc moi j'ai plus abordé l'aspect sacrificiel, le rituel par rapport à ce livre, La part maudite. Alors il y a une petite installation que je vais installer ici qui se retrouve entre deux images qui sont assez symptomatiques. Donc une image qui a été photographiée, enfin une photographie de Vézelay, qui est précisément à la terrasse de Georges Bataille, où il vivait, rue Saint-Étienne. Et une autre photographie qui est à Némi, qui est le lac de Némi, là où il s'est inspiré en fait d'un... Bataille avait créé une société secrète qui s'appelait Acéphale, et il s'inspire d'un mythe où il y a un rituel sacrificiel autour de la déesse Diane à Némi. Et en fait, en faisant les deux images, j'ai composé presque la même photographie. C'est comme si de la terrasse de Vézelay, il voyait Némi, et à Vézelay, il a théorisé, il a écrit un livre qui s'appelle Le Coupable, qui parle de Némi. Et du coup, c'est comme si c'était les deux images. Et entre les deux, je vais disposer un papier photographique vierge, un papier argentique, donc qui vire au soleil, et qui est comme une sorte d'offrande au soleil et à l'énergie, justement, du soleil, et qui va créer une sorte d'image latente, mais qui pourrait être le lac de Diane. Qu'on appelle le lac de Diane, le lac de Némi, le miroir de Diane qui est entre les deux lieux, qui sépare entre les deux lieux, et ça devient une espèce de surface de projection entre les deux images.
Très bien, bah merci beaucoup, et puis bah, je vous laisse travailler et je vous souhaite bon courage. Voilà, chères auditrices et auditeurs, cet extrait est maintenant terminé. Je vous rappelle que pour écouter la suite de cet entretien avec Léa Bismuth, commissaire d'exposition au La Banque à Béthune, il faut aller sur notre site internet microrebelle.fr. Je vous dis à la semaine prochaine. Un dernier mot concernant la musique, c'était un morceau du groupe Zwieback, Long Time Expected. Voilà, je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine.
Merci Michel. Vous êtes toujours sur Micro Rebelle. Michel vous l'a précisé, vous venez d'entendre un extrait d'un reportage plus important consacré à ce nouvel équipement La Banque et à un échange avec Léa Bismuth, commissaire de l'exposition Les Dépenses. Si vous souhaitez écouter ce reportage en intégralité, il est diffusé sur microrebelle.fr dans la rubrique Reportage, jeudi 6 octobre à 18h. Il vous sera ensuite possible de le réentendre et de le télécharger. J'en profite pour vous indiquer les autres rubriques qui vous sont proposées cette semaine sur Micro Rebelle. Il s'agit de deux émissions littéraires. Tout d'abord, le vendredi 7 octobre à 21h, Fahrenheit 451, une nouvelle émission qui sera diffusée le premier vendredi du mois avec Olivier et Michel. Ensuite, Micro Littéraire, une émission littéraire que vous connaissez chaque dimanche à 11h. Après avoir côtoyé L'Établi de Robert Linhart ces trois derniers dimanches, Micro Littéraire vous convie à un cycle autour du magnifique roman de Travaine, La Révolte des Pendus. Pour ce qui me concerne, je vous retrouve la semaine prochaine pour la prochaine édition de Micro Rebelle Hebdo. Je vous rappelle ces deux rendez-vous, donc Fahrenheit 451, le premier vendredi du mois à 21h, et Micro Littéraire, chaque dimanche à 11h. Et je vous propose de terminer ensemble, de nouveau avec Zwieback. Merci pour votre écoute et à très bientôt.